Ces dernières semaines, j'ai beaucoup eu l'occasion de passer du temps avec des chrétiens d'autres églises. J'étais en vacances, j'ai un peu bougé, donc j'ai forcément rencontré des gens. Et devinez ce dont les gens parlent avec un pasteur, même quand ce pasteur est en vacances. Parle d'église. Merci. Et dans ces discussions, ça parlait beaucoup de... Dans notre église, nous, on fait ça. Ah bon? Bah nous, on fait plutôt comme ça. Ah, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Nous, on fait comme ça et on trouve que c'est bien mieux. Je vous passe les détails, vous voyez un peu le genre. Et ces questions, ces discussions n'étaient pas inintéressantes, mais si on en restait là, on avait quand même l'impression qu'on était extrêmement différents. Mais en fait, si on est vraiment honnête, vous pouvez visiter 10 églises différentes, vous verrez globalement la même chose. L'enseignement, la louange, l'accompagnement des gens, des visites, un système de responsables d'église, la prière entre croyants. Mais par contre, c'est vrai, vous ne verrez pas forcément deux églises qui pratiquent ces choses de la même manière. Je me suis alors posé la question, au-delà de ces différences, qu'est-ce qui doit être central dans notre manière de vivre notre foi, de pratiquer notre religion dans notre vie? Et pour réfléchir à ça, j'aimerais que nous étudions ensemble un passage du psaume 50, les versets 1 à 15. Psaume 50, les versets 1 à 15. Psaume d'Asaph. Le Dieu suprême, l'Éternel, a parlé, et il a convoqué la terre du levant du soleil à son couchant. De Sion, parfaite en beauté, Dieu resplendit. Qu'il vienne, notre Dieu, qu'il cesse de se taire. Devant lui, un feu dévorant, autour de lui, c'est l'ouragan. Le ciel en haut, il le convoque, il convoque aussi la terre. Il vient juger son peuple. Rassemblez mes fidèles, ceux qui ont conclu avec moi l'alliance par le sacrifice. Le ciel publiera sa justice, c'est Dieu qui est le juge. Mon peuple, écoute, je te parle. Israël, je témoigne contre toi, moi qui suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'adresse des reproches, j'ai constamment tes holocaustes sous les yeux. Je ne prendrai ni des taureaux dans ton étable, ni des boucs dans tes fermes, car tous les animaux des forêts sont à moi. À moi, les bêtes par milliers dans les montagnes. Je connais les oiseaux des cieux et tous les animaux des champs me sont à portée de la main. Si j'avais faim, te le dirais-je. L'univers est à moi et tout ce qu'il renferme. Vais-je manger des taureaux gras ou m'abreuver du sang de bouc? En sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance, accomplis envers le Très-Haut les vœux que tu as faits. Alors tu pourras m'appeler au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me rendras gloire. J'arrête là la lecture. Alors, le début du psaume présente Dieu en tant que créateur. Créateur, maître de toutes choses, Dieu d'alliance, qui donne la loi et qui juge son peuple et sa création. Tout ça rien qu'en 6 versets. C'est extrêmement dense, on ne va pas forcément s'attarder sur toutes ces choses, mais il faut quand même s'y arrêter un moment. En fait, ce passage remet simplement les choses à leur place. Il présente aux hommes l'identité de Dieu, ses caractéristiques principales, et dans notre réflexion sur une pratique religieuse, c'est quand même important de commencer par centrer toute chose en Dieu. Dieu qui est le centre de notre foi et donc aussi de notre pratique. Recentrer les choses sur sa personne, sur qui il est. Alors que nous dit notre texte sur Dieu? Premièrement, Dieu est créateur et maître de toute chose. Il convoque la terre du levant du soleil à son couchant, au verset 1. Il maîtrise l'ouragan, au verset 3. Il convoque aussi le ciel, au verset 4. Ça en jette. Mais si Dieu peut se permettre de convoquer toute chose sur la terre et dans le ciel, c'est parce qu'il en est le maître absolu. Parce qu'il a créé toute chose, depuis la plus grande jusqu'à la plus insignifiante. Notre texte est clair, rien ne peut se comparer à l'Éternel. Et avant de parler de pratique religieuse ou de foi, de pratique de foi dans notre vie, ce texte commence par remettre la créature que nous sommes à sa place, c'est-à-dire un rang infiniment plus bas que son créateur. Notre ego en prend un coup, faut l'avouer, mais dans une réflexion sur la pratique religieuse, sur le centre de cette pratique, nous sommes obligés de commencer par une démarche d'humilité devant Dieu. Le début de notre texte nous dit aussi que Dieu vient pour juger son peuple et sa création. Alors voilà un sujet encore plus dérangeant. Le Dieu juge, c'est une réalité qui n'est pas à la mode. Le Dieu d'amour, on aime bien. Ça plaît, ça rassure. On en parle beaucoup, le Dieu d'amour. Ça rassemble les gens. Mais le Dieu juge, on aime beaucoup moins, il faut l'avouer. Et pourtant, ce texte l'affirme, si Dieu est effectivement amour, il est aussi justice. Et à aucun moment son amour ne peut devenir injuste, ni sa justice être dépourvue d'amour. Dieu est pleinement amour et pleinement justice. Dieu vient pour juger sa création dans ce texte, et il a effectivement déjà jugé sa création, principalement à deux reprises. Est-ce que vous voyez dans la Bible deux moments qui nous sont racontés dans lesquels Dieu marque un jugement fort contre sa création? Est-ce que vous en voyez? Le déluge. Effectivement, tout d'abord, dans le début de la Genèse, Dieu juge les hommes mauvais. Le texte de la Genèse nous le dit. Et Dieu décide donc de punir les hommes en conséquence. Il les juge. Mais il sauve ceux qui font le bien. Les hommes mauvais reçoivent ce qu'ils méritent, et Dieu laisse la vie à ceux qui sont justes. C'est la première fois dans la Bible où Dieu juge sa création. Mais y en a-t-il un autre? Quelque chose qui vient bien plus tard que l'événement du déluge? Vous ne voyez pas? La croix. Sur la croix, Dieu juge les hommes et les déclare mauvais. Mais au lieu de les punir très justement, comme il le mérite et comme il l'a fait durant le déluge, Dieu se donne lui-même. Il donne son Fils à la place de ceux qui croient en lui. Il l'a fait parce que si, effectivement, Dieu est justice, ne l'oublions pas, Dieu est aussi amour. Dieu a déjà jugé sa création par deux fois, et la Bible nous dit qu'il la jugera encore une fois, et de manière définitive, lors du retour du Christ sur terre. Pourquoi commencer par tout ça dans une réflexion sur notre pratique religieuse? Tout simplement parce que si nous voulons nous approcher de Dieu dans de bonnes dispositions, il nous faut être au clair en ce qui le concerne, et au clair également en ce qui nous concerne. Un chrétien ne peut pas passer à côté d'une démarche d'humilité. C'est le fondement même de notre conversion. Reconnaître que nous sommes peu de choses, mais que Dieu est tout. Reconnaître également que nous sommes impuissants face à notre péché et que notre salut ne peut être qu'un don gratuit de ce Dieu tout-puissant. Et l'humilité fait malheureusement défaut à beaucoup de nos contemporains qui pensent qu'en faisant le bien, ils pourront compenser le mal qu'ils font aussi. Ils ont l'impression que la justice de Dieu serait comme une balance dans laquelle le bien et le mal sont pesés, et sur cette balance, il faudrait mettre plus de bien que de mal. C'est quand même étrange de penser comme ça. Parce que prenons l'exemple d'un tribunal humain. Nos tribunaux à nous. Ils rendent une justice imparfaite. Nous sommes d'accord, il y a des erreurs judiciaires, ça arrive. Ils font au mieux, on le sait, mais c'est pas parfait. Mais même devant ces tribunaux imparfaits, un coupable ne sera pas épargné grâce à ses bonnes actions. Non, il est jugé pour ses fautes. Et il sera très justement condamné pour ses fautes. Si vous frappez une personne sous le coup de la colère, peu importe que vous soyez en général quelqu'un de très doux ou très paisible, vous serez jugé par les hommes pour votre faute. Si vous grillez un feu rouge et que vous prenez une amende, peu importe que vous ayez respecté le code de la route votre vie entière, vous serez jugé pour votre faute. Même devant la justice des hommes qui est imparfaite, un coupable n'est pas pardonné à cause de ses bonnes actions. Non, il est jugé pour ses fautes. Et bien devant le tribunal de Dieu, dont la justice est parfaite, c'est la même chose. Nos bonnes actions ne rachèteront pas nos mauvaises. La seule manière d'obtenir le pardon, c'est de nous placer sous la protection du Christ, qui a payé pour nos fautes à notre place et qui nous offre gratuitement la grâce d'être sauvés à travers lui. Gratuitement. Voilà ce par quoi il faut commencer avant de réfléchir à notre pratique religieuse, parce que voilà le socle, le centre de notre foi, ce qui détermine tout le reste. Il faut replacer Dieu et les hommes à leur place. Dieu tout en haut, les hommes tout en bas. Dieu le parfait amour et la parfaite justice, les hommes étant coupables et ne pouvant pas se sauver tout seuls. Il n'y a que Dieu qui peut nous offrir le pardon, le salut et la vie éternelle. Et c'est ce qu'il fait en Jésus-Christ, à la croix. Ensuite, notre texte nous parle enfin de pratiques religieuses. Alors, il faut avant tout dire qu'avoir une certaine forme de pratique religieuse, qui puisse même devenir une tradition, c'est pas forcément mauvais. Dieu ne le condamne pas. Dans notre texte, Dieu commence par dire ceci au verset 7 et 8. « Mon peuple, écoute, je te parle, Israël, je témoigne contre toi, moi qui suis ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'adresse des reproches, j'ai constamment tes holocaustes sous les yeux. » Dieu avait donné à son peuple une forme de pratique religieuse à respecter, et son peuple la respecte. Constamment, ils offrent des sacrifices à Dieu, des sacrifices selon la loi que Dieu leur avait donnée. Et Dieu le dit très clairement, c'est pas à cause de la forme de leur pratique que Dieu vient, comme il le dit, témoigner contre son peuple. Ici, c'est pas ça le problème. Ça veut pas forcément dire non plus que la forme n'a pas d'importance, qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Il y a d'autres passages où Dieu condamne certaines pratiques, souvent un peu extrêmes, qu'il ne désirait pas. Par exemple, à l'époque de ce texte, d'autres religions, d'autres peuples autour faisaient également des sacrifices à leur Dieu, mais certains pratiquaient le sacrifice humain. Et Dieu a toujours condamné cette pratique. Je sais, c'est un exemple extrême, on va pas se baser dessus pour notre réflexion d'église, mais Dieu n'accepte pas non plus tout et n'importe quoi. Mais alors, si Dieu ne fait pas ici de reproche sur la forme, qu'est-ce qui ne va pas ? Eh bien, pour le savoir, il faut observer les indices des versets suivants, et je vous relis les versets 9 à 13. Je ne prendrai ni des taureaux dans ton étable, ni des boucs dans tes fermes, car tous les animaux des forêts sont à moi les bêtes par milliers dans les montagnes. Je connais les oiseaux des cieux et tous les animaux des champs me sont à portée de la main. Si j'avais faim, te le dirais-je ? L'univers est à moi et tout ce qu'il renferme. Vais-je manger des taureaux gras ou m'abreuver du sang du bouc ? Ici, Dieu précise, premièrement, que toute sa création lui appartient. Et deuxièmement, qu'il n'a besoin de rien de la part des hommes. Alors, ça paraît évident, mais si Dieu prend la peine de le préciser, c'est que c'est pas forcément si évident que ça. Manifestement, lorsque le peuple, à l'époque, pratique sa religion, notamment les sacrifices, il a l'impression d'offrir quelque chose, de donner quelque chose à Dieu, quelque chose qui leur appartienne et dont Dieu aurait besoin. Et Dieu dit non. Vous ne me donnez rien qui me soit nécessaire, simplement parce que tout est déjà à moi et je n'ai besoin de rien. On comprend mieux pourquoi notre texte commençait par une forte démarche d'humilité. Le peuple d'Israël oubliait qui est Dieu et il pensait donner à Dieu quelque chose qui lui soit nécessaire. Le peuple avait perdu cette humilité que nous rappelle ce psaume, l'humilité d'une créature devant son Créateur. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de quelque chose qui vienne de nous, c'est nous qui avons besoin de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Et nous l'avons vu ensemble, nous dépendons de Dieu notamment pour notre salut. Le problème du peuple d'Israël de l'époque n'est pas si étrange. On retrouve ça, je vais d'abord parler de l'époque, dans beaucoup de religions qui entouraient le peuple d'Israël. Je vais vous donner un exemple qui me fait, j'avoue, un peu marrer. À une époque proche de celle de notre texte, il y a un grand empire, très puissant, l'empire assyrien. Et dans la religion de ce peuple, ils pensent que offrir des sacrifices sert à nourrir leur dieu. Les dieux, dans leur religion, dans cet empire assyrien, les dieux dépendent des sacrifices humains pour se nourrir. Et on a retrouvé un texte assyrien du 7e siècle, un texte assez connu, peut-être certains en ont entendu parler, l'épopée de Gilgamesh. Dans ce texte, il y a notamment un récit du déluge qui ressemble énormément à celui de la Bible. Sauf que dans ce récit assyrien, si les dieux décident de faire périr les hommes, c'est parce qu'ils font trop de bruit et ça dérange les dieux. Donc ils décident de faire périr l'humanité, sauf un homme et sa famille. Et je le rappelle, dans cette religion, les dieux dépendent des sacrifices humains pour se nourrir. Et comme il n'y a plus personne, il n'y a plus non plus de sacrifices. Et le texte nous raconte que les dieux sont en train de crever de faim. Alors quand cette famille qui a été sauvée du déluge sort de l'arche et offre enfin un sacrifice de reconnaissance, tous les dieux s'agglutinent autour du sacrifice pour se nourrir tellement ils ont la dalle. Vous voyez, c'est une pensée qui était assez répandue à l'époque, on comprend mieux pourquoi Dieu dit dans ce texte qu'il ne se nourrit pas des sacrifices. Il leur dit « Si j'avais faim, vous le dirais-je, Dieu n'a besoin de rien ». Mais même encore aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'abri de cette pensée. Alors, nous ne pratiquons plus des sacrifices qui vont nourrir un Dieu, mais on peut devenir orgueilleux, perdre cette humilité devant Dieu d'une autre manière dans notre vie chrétienne. Par exemple, on peut devenir orgueilleux jusque dans le but même de notre existence. J'ai régulièrement discuté avec des chrétiens qui pensent que si Dieu a créé les hommes, c'est parce qu'ils se sentaient seuls. Ils s'ennuyaient. Comme si Dieu avait besoin de nous pour le distraire. Mais Dieu n'a pas besoin de nous pour être heureux. Même avant la création, il vivait déjà une relation parfaite, nous dit la Bible, une relation parfaite avec lui-même. Dans ce mystère que nous n'allons pas approfondir ce matin, ce mystère de la Trinité, le Dieu qui est unique, mais qui est trois en même temps. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On peut également devenir orgueilleux dans notre pratique de la volonté de Dieu, même dans ce qui concerne l'annonce de l'Évangile, de sa parole. En effet, on peut en venir à penser que Dieu a besoin de nous pour faire sa volonté, pour annoncer sa parole, pour que ses plans se réalisent. Nous pouvons arriver à penser que nous lui sommes nécessaires. Mais c'est faux. Dieu n'a pas besoin de nous-mêmes pour faire tout ça. Mais il nous fait le cadeau de pouvoir participer à son œuvre. C'est Dieu qui nous appelle à faire sa volonté une fois que nous croyons en lui. Il nous appelle à faire sa volonté, mais nous ne lui sommes pas nécessaires pour que sa volonté s'accomplisse. Je vais prendre un exemple. Un exemple d'un récit biblique assez connu, celui de la conversion de l'apôtre Paul, que peut-être beaucoup connaissent ici. Dieu a-t-il eu besoin des hommes pour toucher le cœur de l'apôtre Paul ? Non. Comment Dieu a-t-il touché le cœur de l'apôtre Paul ? Il lui est apparu dans une révélation miraculeuse. Et Paul a cru. Dieu n'a pas besoin de nous-mêmes pour l'annonce de l'Évangile. Mais Dieu, dans son amour, nous a adoptés comme ses enfants. Nous faisons partie de sa famille et la volonté de Dieu, de cette famille, doit devenir notre volonté propre. Et l'annonce, l'œuvre de l'Évangile que Dieu souhaite, doit également devenir notre priorité. Nous pouvons enfin, par exemple, devenir orgueilleux, même dans le salut que Dieu nous donne. En effet, certaines personnes vont même jusqu'à penser que Dieu ne peut pas nous sauver gratuitement, mais qu'il nous faut nous aussi participer à notre salut par des œuvres, par des actes bons. Comme si Dieu avait besoin de nous pour nous sauver. Vous voyez, nous ne sommes pas à l'abri de l'orgueil, même aujourd'hui, même dans notre pratique religieuse ou dans notre vie chrétienne. C'est pourquoi ce texte remet les choses à leur place. Il replace Dieu tout en haut et nous tout en bas. On ne peut pas donner à Dieu une chose dont il aurait besoin. Il n'a besoin de rien. Et s'il reçoit favorablement quelque chose qui vient de nous, c'est parce qu'il le veut. C'est par amour pour nous qu'il nous permet d'avoir la joie de lui offrir quelque chose. Nous aimons Dieu. Et lorsque nous aimons une personne, nous voulons de tout notre cœur lui faire plaisir, lui montrer cet amour. Lorsqu'on aime sa famille, lorsqu'on aime ses proches, on veut leur donner des marques de cet amour, le leur montrer, leur donner de nous-mêmes. Eh bien, nous aimons Dieu et nous voulons le lui montrer, lui donner des marques, des preuves de cet amour. Mais Dieu n'a besoin de rien qui vienne de nous. Nous ne pouvons rien lui apporter. Mais il nous aime et il connaît notre besoin de lui montrer notre amour. C'est pourquoi il reçoit favorablement et avec joie les témoignages d'amour et de reconnaissance de ses enfants. Et c'est là que nous en arrivons pour terminer à ce qui doit être le centre de notre pratique religieuse, de notre vie chrétienne tout entière. Quel est ce quelque chose que Dieu accepte de recevoir favorablement? Eh bien, nous avons la réponse au verset 14, où il nous est dit « En sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance. Accomplis envers le Très-Haut les vœux que tu as faits. » Dieu nous donne tout dans son amour, et lui n'a besoin de rien. Mais nous ressentons le besoin de lui offrir quelque chose parce que nous l'aimons nous aussi. Et ce quelque chose que nous pouvons lui donner, lui offrir, c'est avant tout notre reconnaissance pour tout ce qu'il fait pour nous, pour ce qu'il nous donne. Et le texte nous parle également d'accomplir les vœux que nous avons faits parce qu'en reconnaissance de son amour et de son sacrifice pour notre salut, nous avons pris la décision de marcher avec lui, de faire sa volonté. Et l'obéissance à Dieu dans la reconnaissance est également un sacrifice d'une odeur agréable à l'Éternel. Dans notre cœur, dans nos pensées, nos paroles ou nos actes, que toute notre vie puisse refléter notre reconnaissance et notre amour pour notre Dieu. Et qu'ainsi nous puissions vivre jusque dans nos pratiques religieuses communes, nos pratiques individuelles, dans notre vie chrétienne entière, que nous puissions vivre l'humilité et la reconnaissance auxquelles Dieu nous appelle. Amen.